L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la Belgique, avec le roi qui a finalement accepté la démission du gouvernement Charles Michel. Le Mali qui renonce à la publication d'un manuel d'éducation sexuelle pour les jeunes sous la pression des religieux. En Suisse, l'agitation diplomatique avant l'arrivée du président Trump à Davos, ce sera fin janvier. Dans l'actualité francophone également, au Canada, la rivalité entre l'Ouest du pays et le Québec à propos des aides fédérales pour le pétrole albertain. Et puis en France, la police qui obtient gain de cause pour augmenter les salaires. Voici l'actualité francophone. Bienvenue à tous. Au Bénin, portrait du Madoff béninois Émile Tegbenou est au cœur d'un drame qui a fait des milliers de victimes. Son procès s'est ouvert cette semaine à Porto Novo, Marie-Pierre Olfan.
Oui, on l'appelle le procès ICC Service, une vaste escroquerie dont un des maîtres est un forgeron de profession. Émile Tegbenou n'a pas été très assidu à l'école, mais il est devenu très vite un as du placement d'argent. En 2006, il monte une structure avec un associé et fait miroiter aux Béninois des taux d'intérêt mirobolants allant jusqu'à 160% par an. Une centaine de milliers d'épargnants sont escroqués, des victimes ruinées. Certaines se sont même suicidées. Le procès d'Émile Tegbenou et de ses co-accusés a débuté lundi, vous l'avez dit. Il est retransmis en direct à la radio pour permettre aux victimes issues de toutes les régions du Bénin de le suivre.
En Suisse, Pierre Anchoffa, le conseiller municipal de la ville de Vevey, Michel Agnan, vient d'être suspendu par le canton de Vaud.
Oui, si j'ai choisi de vous parler de cette affaire très locale, c'est qu'il est le troisième membre de l'exécutif sur cinq qui est ainsi suspendu. Il ne reste donc plus que deux élus à la tête de cette ville lémanique, soutenus par un délégué nommé par le canton. Le premier est poursuivi pour gestion déloyale et abus de confiance. Les deux suivants sont sous enquête pour violation du secret de fonction. Le canton espère ainsi ramener un peu de sérénité dans la gestion de la ville.
Benoît Audet au Canada, votre personnalité de la semaine est l'explorateur Samuel de Champlain.
Oui, il est mort depuis bien longtemps, au 17e siècle, mais son nom continue de défrayer la manchette. Le gouvernement fédéral a annoncé que le nouveau pont dessus du Saint-Laurent à Montréal, qui sera inauguré l'année prochaine, portera le nom complet de Samuel de Champlain. L'ancien pont, situé tout juste à côté du nouveau, porte le simple nom de Champlain, ce qui était un peu réducteur compte tenu du rôle de géant qu'a joué Samuel de Champlain dans l'histoire du Canada.
La Belgique, Nathalie Devic, la Belgique qui a fait la fête cette semaine à ses hockeyeurs.
Et oui, champion du monde, nos Red Lions sont entrés dans l'histoire en offrant à la Belgique cette belle première, un titre mondial dans un sport collectif, le hockey, de plus en plus populaire chez nous. Nos champions ont été accueillis en héros à leur retour au pays mardi, reçus au Palais Royal, ovationnés par une foule de milliers de supporters, rassemblés sur la Grand Place de Bruxelles, où ils ont brandi la coupe depuis le balcon de l'hôtel de ville. C'est un trophée qui avait échappé à nos Diables Rouges cet été au Mondial de football. Du coup, le sacre suprême cette fois pour nos lions n'en avait que diablement meilleur goût.
L'homme de la semaine en France, et c'est un peu notre conte de Noël, l'histoire de ce sans-abri depuis 2 ans dans les rues de Paris. Son rêve était de monter un food truck, un camion-restaurant. Eh bien, l'ancien cuisinier matelot va pouvoir devenir le patron de son propre camion-restaurant grâce à la solidarité de quelques compagnons et des habitants du quartier. Les fonds ont été réunis grâce à l'accumulation de petits boulots. Parallèlement, l'homme s'est inscrit à une formation en comptabilité et pour les formalités, les photocopies était imprimé gracieusement chez un avocat au coin de la rue. Bref, le food truck va ouvrir ses portes le 6 janvier prochain à Paris avec, paraît-il, des pizzas à moins de 10 euros. En Belgique, après avoir consulté tous les acteurs politiques, le roi a donc fini par accepter la démission du gouvernement. Avec quelles conséquences pour le pays, Nathalie Devic?
Bien d'abord, des répercussions socio-économiques évidentes. À 5 mois des prochaines élections fédérales, et on ne retournera pas aux urnes avant, restent de nombreux dossiers à régler, certains d'ailleurs qui étaient presque finalisés, comme le budget mobilité, les accords sur l'emploi avec les métiers en pénurie, la réforme des pensions, les soins de santé, le prix de l'énergie. Autant de dossiers maintenant gelés, alors qu'ils ont une importance capitale pour les citoyens dans leur quotidien. Et à côté de tout cela, il y a aussi des conséquences diplomatiques avec cette question. Comment, à présent, se positionner sur la scène internationale, quand c'est en plus, justement, la politique étrangère qui a fait chuter le gouvernement, le fameux pacte sur les migrations des Nations Unies? C'est une question délicate.
Cela dit, Nathalie, la Belgique a l'habitude de ce genre de situation de crise gouvernementale, mais au final, la Belgique s'en est toujours sortie.
Oui, c'est vrai, notre pays détient ce terrible record européen. En 2010 et 2011, nous sommes restés 541 jours sans gouvernement à gérer, comme on dit, les affaires courantes. Nous y revoilà donc aujourd'hui, mais dans une configuration totalement inédite, car ce gouvernement démissionnaire est également minoritaire depuis le départ des nationalistes. Cela signifie qu'il ne peut plus prendre de nouvelles initiatives sans l'aval du Parlement, et ce donc jusqu'aux prochaines élections, dans 5 mois. D'ici là, il n'y a plus qu'à tenter de garder le cap, et ce ne sera pas simple du tout, vu la rupture de confiance tant au sein de la population que des entreprises, l'ensemble du monde économique, mais aussi social. Bref, pas vraiment le cadeau de fin d'année rêvé.
En Suisse, à la veille des fêtes, l'administration fédérale est en ébullition à cause d'un certain Donald Trump, Pierre-Anne Chauffard.
Le président américain vient en effet d'annoncer sa venue au Forum économique mondial de Davos en janvier prochain, une nouvelle visite donc après l'édition 2018, mais cette fois avec une délégation plus importante, le secrétaire au Trésor, le secrétaire au Commerce et également le secrétaire d'État Mike Pompeo. De quoi agiter les diplomates suisses qui espèrent évidemment profiter de cette proximité géographique pour obtenir des entretiens pour les conseillers fédéraux en charge de ces dossiers.
Et concrètement, qu'espère la Suisse ?
Eh bien, outre une rencontre présidentielle pour le nouveau président, l'UDC Uli Maurer, c'est avant tout un accord de libre-échange que Berne espère négocier avec Washington. Cela fait quelque temps que l'on en parle, les États-Unis ont fait part de leur intérêt, mais il s'agit toujours de discussions exploratoires. Et petit souci, côté suisse, le ministre de l'économie prend sa retraite. L'UDC Guy Parmelin n'entrera en fonction à ce nouveau poste que le 1er janvier. Il n'aura donc que peu de temps pour préparer une potentielle rencontre avec le secrétaire au commerce Wilbur Ross.
Mon but, c'est de rencontrer certaines personnes clés. Je suis en contact aussi avec les gens de mon futur département pour pouvoir voir quelles sont les personnes qu'il serait important de contacter. Nous avons des messages à faire passer. La Suisse est aussi respectée sur le plan international. Le programme est en cours de préparation.
Il est toutefois évident que la Suisse, face aux différends commerciaux entre la Chine et les États-Unis, ne sera pas prioritaire sur l'agenda de la délégation américaine.
Au Mali, le gouvernement renonce à l'élaboration d'un manuel scolaire d'éducation sexuelle pour adolescents. Il le fait sous la pression des associations musulmanes, Marie-Pierre Olfan.
Oui, ces organisations ont manifesté leur désaccord très vite. Dès les premières consultations lancées pour réfléchir à la question, la rumeur qu'un manuel scolaire sur l'homosexualité était en préparation a enflé. À la manœuvre notamment Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il est allé jusqu'à menacer d'organiser un grand meeting pour mobiliser les imams et les fidèles contre le projet. Le ministère de l'Éducation nationale a d'abord tenté d'apaiser les choses en assurant qu'il ne s'agissait que du début d'une réflexion sur l'enseignement de l'éducation sexuelle. Mais des associations de jeunes et des enseignants ont aussi fait part de leurs réserves. Évoquer la question des rapports sexuels, c'est conduire les enfants à la débauche, disent ouvertement certains d'entre eux, qui mettent aussi en avant le respect des traditions.
Et dans ce contexte, donc, Marie-Pierre Olfan, les autorités maliennes ont préféré abandonner leur projet.
C'est dans un tweet daté du 19 décembre que Soumaïlou Boubaï Maïga, le premier ministre malien, a annoncé que le gouvernement renonçait donc à l'élaboration d'un manuel scolaire sur l'éducation sexuelle. Une sage décision pour ceux qui estimaient que ce projet était une erreur. D'autres, en revanche, regrettent aujourd'hui ce qu'ils qualifient de reculade du gouvernement sur des questions fondamentales liées à la santé. En 2011, déjà, le gouvernement d'Amadou Toumani Touré avait dû faire marche arrière sur les articles les plus progressistes du Code de la famille, sous pression, là aussi, des religieux.
En France, après les gilets jaunes, les gilets bleus, les policiers très sollicités ces derniers temps ont réclamé à leur tour des augmentations de salaire et ils ont obtenu gain de cause. Accord trouvé cette semaine entre les policiers français et le gouvernement. Les détails de cet accord avec Yves Lefebvre, il est le secrétaire général du syndicat Unité SGPFO Police.
Entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, ça sera en moyenne, je dirais, pour un gardien de la paix en début de carrière d'environ 120 euros d'augmentation par mois, et pour, je dirais, dans les grades un peu plus, ou dans les échelons un peu plus sommitaux, ça va être une variable d'ajustement entre 120 et 150 euros.
Voilà, le gouvernement français s'est aussi engagé à prendre à bras-le-corps la question des heures supplémentaires des policiers. Et ce n'est pas une mince affaire. 23 millions d'heures supplémentaires que l'État français n'a pas encore honorées. Toutes ces revendications prises en compte, c'est une réelle avancée, une avancée conséquente. Nous avons été entendus, reconnaît Jean-Claude Delage. Il est le leader du syndicat Alliance Police Nationale.
C'est la reconnaissance de l'État, la reconnaissance matérielle que nous avions exigée. Elle est conséquente pour notamment les gradés et gardiens qui, eux, œuvrent sur le terrain et subissent depuis des années et ces dernières semaines des violences constantes.
La satisfaction des syndicats, mais en revanche, pour le mouvement des policiers en colère, mouvement non syndiqué, le compte n'y est toujours pas. Les policiers en colère veulent maintenir la pression sur le gouvernement, toujours donc pour une meilleure revalorisation de leur pouvoir d'achat. Au Canada, le gouvernement fédéral a décidé cette semaine de venir en aide à l'industrie pétrolière. Les compagnies pétrolières, principalement établies dans la province de l'Alberta, elques se disent en difficulté depuis quelque temps. Benoît Audet, quels sont les détails de cette aide consentie par Ottawa?
Le gouvernement fédéral versera une aide d'un peu plus $1,5 milliard pour aider, entre autres, l'industrie à acheminer le pétrole vers de nouveaux marchés. L'Alberta est une province enclavée sans accès direct à l'océan. Il n'arrive pas à exporter son pétrole outre-mer, ce qui a un effet négatif sur les prix.
Et les difficultés de l'industrie albertaine ne sont pas nouvelles, donc?
Non, l'Alberta est condamnée à exporter le pétrole qui n'est pas consommé au Canada vers les États-Unis et tous les projets de nouveaux pipelines pour acheminer le pétrole vers l'Atlantique ou le Pacifique ont échoué jusqu'à maintenant.
Ces difficultés, elles créent justement des tensions entre plusieurs provinces au Canada?
Oui, particulièrement entre l'Alberta et le Québec. Le premier ministre du Québec, François Legault, a qualifié le pétrole de l'Alberta d'énergie sale pour justifier son opposition à un projet de pipeline qui passerait sur le territoire du Québec. Les réactions ont été vives en Alberta où on fait valoir que la richesse pétrolière rejaillit sur tout le pays et particulièrement sur le Québec. On sent donc une reprise des tensions entre l'Est et l'Ouest du pays et ça risque de demeurer un sujet chaud en 2019, année électorale au Canada.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.